RCF.
Bienvenue à toutes et à tous en direct ou en podcast dans ce 7e numéro de la 7e saison de Côté Ouvert, votre rendez-vous consacré à l'actualité du rugby à 15 sur RCF Pays d'Aude, avec la complicité de RCF Pays Ternay, également diffusé sur RCF Occitanie en DAB+. Rendez-vous qui vous est toujours proposé en partenariat avec le site Vibray Rugby. Aujourd'hui, dans notre multiplex entre l'Aude et le Tarn, c'est avec un immense plaisir que nous accueillons notre vénérable préféré, Monsieur Christian Mosna. Bonjour Christian.
Bonjour à tout le monde.
L'indispensable Renaud Sorel du côté d'Albi a répondu présent à l'appel. Salut Renaud.
Bonjour, pardon, j'étais perdu. Bonjour à tout le monde.
Et puis ensuite, pour conclure cette revue d'effectifs très rapide, parce que ce soir on joue, aujourd'hui, pardon, on joue en équipe restreinte, c'est Christian Guittard qui est également au rendez-vous. Bonjour Christian.
Bonjour, salut à tous.
Et puis, petite surprise, turnover, comme on dit en l'équipe, pour mettre en nom cette émission. Jérôme Bozon étant en vacances, c'est Nathalie Dessauce qui assure l'intérim avec brio. Bonjour Nathalie.
Et bonjour, bonjour à tout le monde et bonnes vacances à Jérôme.
Allez, au menu de Côté Ouvert aujourd'hui, comme un écho à un de nos précédents numéros, nous parlerons gendarmes financiers du rugby, DNACG. On reviendra également sur l'équipe de France avec une question volontairement provocatrice pour mettre un petit peu le feu à nos débats. C'est de qui, de M'Tamak ou de Jalibert, voulez-vous à l'ouverture titulaire au sein du 15 de France? Et puis surtout, on donnera un coup d'œil aux champions de Pro D2, surtout parce qu'il y a une équipe qui est en train de tout casser, c'est l'US Oyonnax. Allez, tout de suite, sans plus tarder, on va parler gendarmes financiers. Vous savez, la fameuse commission de contrôle des championnats professionnels CCCP, rien à voir avec l'ex-URSS qui a frappé en Pro D2. Si vous vous rappelez, on a eu Jean-Louis Cousinus il y a quelques semaines qui était venu nous parler un petit peu du boulot de la ex-DNACG, de ces organismes qui étaient dans le contrôle, dans l'accompagnement. Mais là, l'accompagnement a trouvé ses limites puisque deux clubs, je le disais, de Pro D2 ont été sanctionnés. Alors, je vous fais ça très, très rapidement. Il y a quand même des retraits de points et des amendes. En l'occurrence, un club qu'on connaît très bien ici sur Côté Ouvert, c'est l'US Carcassonne, qui a pris 3 points, alors avec sursis pour la saison actuelle sur le classement actuel, et puis surtout une amende de 20 000 euros, dont 13 000 euros avec sursis. Ça veut dire quand même que les jaunes et noirs vont devoir débourser 7 000 euros. Quant à Grenoble, qui est le second puni, celui qui a été pris dans les doigts, dans le pot de confiture en tout cas, c'est 5 points, dont 2 avec sursis. Ça veut dire quand même qu'il y a 3 points de moins au classement et une amende ferme là de 20 000 euros. La sanction est tombée il y a maintenant une semaine. Les clubs avaient jusqu'au 28 pour faire appel. Pour l'instant, de notre côté, on n'a pas eu d'infos d'appel. Alors peut-être on va en parler un peu plus clairement avec Christian qui suit ces dossiers de près. Et moi, ce que j'ai eu dans les attendus du communiqué officiel par la LNR, c'est non-respect des dispositions réglementaires et des décisions. Et surtout pour Carcassonne, en plus, on lui a dit incohérence ou invraisemblable du budget initial ou actualisé. Notre copain Fred Protet n'était pas dispo aujourd'hui, donc on n'aura pas exactement le son de cloche du FCG. Par contre, on a l'homme qui connaît très bien l'US Carcassonne, Christian. Alors, est-ce que toi, tu as plus d'infos que ces bribes de phrases ou ces communiqués laconiques émis par les autorités du rugby?
Oui, parce que c'est vrai que c'est pas tout à fait difficile, c'est pas très très facile à comprendre. Enfin, c'est du juridique, donc je vais essayer d'expliquer moi ce que j'ai pu avoir comme information concernant la sanction de Carcassonne.
Donc en fait,
y a une règle qui stipule que un club professionnel doit avoir sur son compte en permanence l'équivalent de la masse salariale pour l'année complète. Hein. Ça, c'est une des règles qui permet de protéger justement les joueurs et d'assurer que leur salaire sera versé. Donc, ce qui s'est passé pour Carcassonne, il n'y a rien d'officiel, mais j'ai appris ça par la bande, c'est qu'en fait, on a au moins un ou deux sponsors qui ont demandé un décalage de trésorerie. Donc, ils devaient mettre de l'argent, ils vont mettre de l'argent, mais ils décalent ça apparemment en janvier. Ce qui fait que Carcassonne s'est retrouvé donc avec un trou. Alors, l'info que j'avais, c'était un trou de 200 000 euros. Donc, il a été comblé par certains partenaires que tout le monde connaît sur Carcassonne, donc qui ont donc rajouté les 200 000 euros en attendant que ces partenaires puissent honorer leurs engagements auprès du club. Voilà, alors, voilà l'explication que j'ai eue.
Alors, pour conclure là-dessus, ce que tu dis, et on va le faire très brièvement, c'est que les suiveurs et les supporters de l'US Carcassonne n'ont pas à s'inquiéter outre mesure, puisqu'a priori, le sursis des points retirés ne se concrétisera pas en points de moins, et a priori, c'est juste une petite opération financière qui permettrait à terme de retrouver ces fameux. On est sur les fonds de réserve, c'est ça, plus ou moins?
Voilà, c'est ça, oui, c'est ça. Hein, donc, le fonds de réserve n'était pas suffisant. Et donc, certains dirigeants ont mis la main à la pâte pour combler ce déficit. Hein. Et donc, il n'y a pas eu d'appel. D'ailleurs, le club ne fait pas appel, n'a pas fait appel même du tout auprès de la CCCP pour cette sanction. Elle est acceptée puisqu'il y avait, une erreur de comptabilité, c'est clair.
Bien, bah écoute, comme on dit dans le jargon, affaire à suivre. Et puis nous, on va se lancer vers le second sujet. Allez, sans transition, là aussi, comme on dit dans le jargon, je vous propose un petit bilan de la tournée d'automne sous forme d'un débat. Messieurs, j'aimerais écouter vos arguments. Une question un peu pour mettre le feu aux poudres. On m'a reproché que l'émission Côté Ouvert était trop plan-plan, ça déroulait tout tranquillement. Il n'y avait pas encore assez de buzz, comme on dit, médiatique. Donc, on va un petit peu essayer de voir, les garçons, si on arrive à vous mettre en opposition. Moi, j'ai une question autour du poste de demi-ouverture pour le 15 de France. Donc, le 15 de France a remporté brillamment les trois matchs de la tournée d'automne. On est sur une série de, je crois, 13 victoires consécutives. Et moi, j'ai une question. Qui, pour vous, est le numéro 1 au poste de demi-ouverture à l'issue de ces tests? Est-ce qu'on garde Romain Ntamack, malgré que moi, j'ai trouvé quelques fragilités sur certains matchs, ou en tout cas un rendement qui n'était pas le sien habituel, ou c'est Jalibert, avec ses entrées fulgurantes, Mathieu Jalibert, qui mériterait d'être testé en numéro 1? Tiens, je vais me tourner vers notre ami Tahiti Bob, alias Christian Guitard, pour lancer les hostilités. Alors, plutôt Jalibert ou plutôt Ntamack, Christian?
Alors, moi, je vais dire Ntamack, puis je vais apporter quelques arguments. Pourquoi Ntamack? Ben, d'abord parce que c'est un petit peu le taulier quand même dans cette équipe. Il connaît son boulot. Et puis surtout parce que c'est probablement celui qui rentre le mieux dans le cadre de jeu que veut Fabien Galthié. Je pense que vous avez lu, comme moi, l'importance du jeu au pied de cette équipe de France, puisque c'est celle qui a le plus joué au pied de toutes les équipes dans cette Autumn Cup. Et je pense que Jalibert, qui a bien évidemment d'énormes qualités de jeu, de capacité de franchissement, mais qu'on a systématiquement vu rentrer en fin de match, correspond probablement moins au jeu que veut mettre en place Fabien Galthié, et au nom de cette régularité, de cette capacité à jouer ce jeu qui réussit si bien à l'équipe du France, qui est peut-être pas flamboyant, tu disais, hein, il n'a pas fait une Autumn Cup délirante, Ntamack, même si on l'a un peu retrouvé hier au soir là, sur le match contre Lyon, où il a planté un joli essai, mais je pense qu'il correspond mieux au jeu que veut mettre en place. Voilà. Alors, donc, ce n'est pas le jeu le plus flamboyant, mais je pense à Ntamack, et Ntamack, c'est quand même celui qui démarre, et ça serait bien de voir Jalibert démarrer pour pouvoir avoir tous les éléments de comparaison.
Monsieur Sorel, qui est resté étonnamment silencieux depuis le début de l'émission, c'est à noter, hein, ça c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, Renaud, toi, je sais que tu as une grande passion pour Mathieu Jalibert.
Non, faut arrêter. Ça, c'est des plaisanteries off les soirs de commentaires de matchs de pur jeu de national. Donc, on va pas dire ce qu'on y a. Non, je corrobore à 100% les propos de Christian. Galthié a fait un choix d'une charnière. Et bon sang de bonsoir, ça fait quand même très longtemps qu'on n'a pas agi à l'anglo-saxon là-dessus. C'est-à-dire qu'on a une charnière et on s'y tient. Stabilité. Donc, il a Dupont. Bon, là, on ne va pas faire un jour de débat sur Dupont.
Moi, je crois pas, non.
Il a choisi son 10 parce que ça correspond exactement à son fameux plan de jeu de dépossession qu'on aime ou qu'on n'aime pas, de fameux kicking game, etc. Il y a une complémentarité, qu'on le veuille ou pas, entre Dupont et, j'allais dire, Jalibert, Et Ntamack, je pense qu'Ntamack, c'est le seul 10 capable aujourd'hui de sentir et de suivre les fulgurances que va avoir son numéro 9. Ça, c'est la première chose. Ensuite, comment ça s'appelle? Moi, je suis très heureux que la France ait gagné ces trois matchs en ayant une charnière qui grince. Ça veut dire que si elle n'avait pas grincé, qu'est-ce que ça aurait été? Et pour paraphraser les propos du Beaumoulin à propos de notre ami Romain Ntama qui nous intéresse ce soir, quand il est en dessous de 18 sur 20, tout le monde lui tombe dessus. Et je rajouterai juste une précision par rapport aux propos de Christian. On a vu Jalibert débuter, on l'a vu en tournée cet été. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait dans la sobritude. C'est-à-dire qu'il a balancé des grands coups de pied et il a respecté le plan du jeu. Exactement. Alors on le voit entrer les 10 dernières minutes faire ses petits chips face à une équipe fatiguée, etc. C'est normal, c'est son rôle. Les pros Jalibert, ben, s'il fait une petite chip par-dessus la défense de l'Afrique du Sud en finale de la Coupe du Monde et qui marque l'essai de la gagne, tout le monde le portera au nu, tout le monde sera content, mais tout le monde aura su le boulot, le taf ingrat qu'aura fait notre ami Ntamack, qui, une dernière chose, est, je pense, un plus gros défenseur, ça aussi c'est important, que Jalibert, même si Jalibert a des qualités offensives et des fulgurances qui sont hors normes. Et quand même, juste pour conclure, punaise, on a deux super ouvreurs en équipe de France, ça faisait combien de temps que c'était pas arrivé.
Voilà. C'est vrai qu'à une époque, on se plaignait, vous vous rappelez, on n'avait pas les hommes dans nos discussions, nos débats, et là, je crois qu'on a le staff et les hommes. Christian, est-ce que quand même tu es sensible, toi, aux fulgurances, comme le dit Renaud et comme le dit Christian aussi, est-ce que tu es sensible à ces fulgurances de Mathieu Jalibert, qui effectivement, c'est aussi peut-être l'homme, le finisseur au sens propre de Galtier, qui peut aussi apporter une valeur ajoutée, ou tu veux le voir débuter?
Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse concernant Ntamack.
Du débat, du clash, de la violence.
Parce que je trouve qu'on joue avec le feu de faire ça, de ne jamais faire débuter Jalibert. Je dis pas, je suis complètement d'accord avec Renaud, on a deux ouvreurs exceptionnels, ça c'est certain, mais il faut imaginer, il faut penser qu'on peut avoir des blessures, on peut avoir des pépins, la Coupe du Monde. Tout le monde a les yeux braqués vers la Coupe du Monde. Il y a encore un tournoi à passer. Je comprends là que Galtier veuille continuer avec sa charnière fétiche parce que c'est son plan de jeu, que tout le monde adhère. Mais c'est risqué en cas de pépin. Voilà. Donc moi, je serais pour une alternance un peu plus marquée.
Je suis pas d'accord.
Une question peut-être un peu plus provocatrice. Ouais. Est-ce que dans la gestion des égos, ça va pas être compliqué parce qu'on sait en particulier que Mathieu Jalibert, quand même, peut-être plus forte personnelle, pas une plus forte personnalité, mais une expression de sa personnalité différente de celle d'Ntamack. Est-ce que bien Christian, est-ce que c'est bien dit, c'est du politiquement correct?
Je pense qu'il y a une différence. Je vais après laisser la parole à Renaud, mais il y a une différence, c'est que il y a le Jalibert de club avec les questions de contrat, de prolongation où ça pèse. Là, on est dans une sélection. Dans une sélection, tu prends les meilleurs. Il y a un staff solide qui va décider. Il a décidé Ntamack. Voilà, ça sera Ntamack en premier choix. Après, si à ce niveau-là, pour un petit peu clasher ce que dit Christian, Jalibert est pas capable de s'adapter si Ntamack était blessé.
Exactement.
À ce moment-là, ils ont qu'à m'appeler à moi. Enfin, normalement.
J'y pensais faire un petit message à Fabien Galtier, un petit mail.
Il vaut mieux pas parce que là, c'est sûr qu'on perd. Mais donc voilà, on a des joueurs hors qualité. Enfin, Jalibert est un super joueur. La question se pose pas. Il y a un plan de jeu qui est en place, et moi je pense que voilà, il rentrera s'il a besoin de rentrer en début de match. Si Ntamack est baissé, malheureusement, ben il rentrera, et je suis certain qu'il fera le taf sans aucun problème.
Parce qu'après on part faire de la Pro D2.
Ouais, mais c'est ça. Tout le monde pensait qu'il débuterait à Toulouse. Il ne l'a pas fait débuter parce que justement, il a un choix fort. Voilà, c'est Ntamack qui débutera les matchs. Jalibert, au niveau, je pense qu'il l'a compris, au niveau de la gestion des égos, connaissant un peu comment procède notre manager de l'équipe nationale, je pense que si jamais il a une parole de travers, il passera à la cadreuse. Et même avec la perspective de la Coupe du Monde, je pense que Jalibert a l'intelligence, l'a compris, ça. Et dans son discours, ses discours concernant l'équipe de France, il a dit oui, je suis numéro 2, j'ai compris, etc. Et une dernière chose, c'est qu'Ntamack a été élevé au niveau, a été nourri à la mamelle du haut niveau et double champion du monde. D'accord. Il a une expérience des matchs de très très haut niveau avec son club, les phases finales, la Coupe d'Europe et les moins de 20. Et ça aussi, ça compte.
Écoutez, messieurs, on doit surtout se réjouir, je pense, effectivement, d'avoir deux numéros 10 d'aussi grands talents. Des très bons numéros 10, il y en a aussi en Pro D2, c'est pour ça qu'on va aller faire un petit tour. Ah, ça s'appelle une transition, elle est approximative, mais c'est une transition. Allez, pour terminer, les garçons, on va faire un petit point Pro D2 après 12 journées de passé. On va aller voir un petit peu les tendances qui s'affirment. Alors, je rappelle rapidement, le samedi dernier, le dernier week-end passé, donc on jouait la 12e journée. Oyonnax s'est très facilement imposé sur Aurillac 45-3. Béziers s'est fait du bien et s'est rassuré 42-17 face à Rouen. Biarritz est venu à bout de Provence Rugby 20-8. Massy, Soyaux Angoulême, la surprise, c'est que c'est Soyaux Angoulême qui est allé, c'est pas une grosse surprise, à s'imposer à Massy 22-23 sur le fil. Mont-de-Marsan s'est vu les pierres en fin de match pour s'imposer face à Nevers 22-19. Montauban et Navande n'ont pas pu se départager, 12-12. Et Colomiers est venu de justesse à bout de Grenoble 19-18, ce qui nous donne un classement avec une équipe en tête, c'est Oyonnax, largement devant, 45 points. Second Biarritz, troisième Grenoble, quatrième Vannes, cinquième Execo, Agen et Colomiers, septième Mont-de-Marsan, huitième Provence Rugby, Rouen, Aurillac et Soyons-Goulême respectivement, 9e, 10e, 11e, 12e Béziers, 13e Montauban, 14e Carcassonne, 15e, c'est une surprise, Nevers, et 16e Massy. Alors messieurs, je ne vous ai pas convoqué entre guillemets pour qu'on commente un résultat, mais c'est plutôt la sensation depuis le début de saison, c'est le premier, c'est l'US Oyonnax, avec peut-être pour commencer les garçons des chiffres et un rythme impressionnant. J'ai fait un petit calcul, 389 points inscrits depuis la première journée, ça veut dire qu'on a un rythme de points terrain inscrits par match de 32,4 points par match inscrits par l'USO. C'est 3,75 points, presque 4 points de moyenne par match au classement, 49 essais, rendez-vous compte, 4 essais par match. Ça veut dire que peut-être qu'à ce rythme, clairement, au Yo, si il n'y a pas de malheur du côté d'Oyonnax, franchira sûrement la barre des 100 points et peut-être même la barre des 110 points au classement en fin de saison. Alors moi, j'aimerais d'abord une première réaction, à savoir, on va commencer tiens, par Renaud, ça t'inspire quoi des chiffres comme ça? On est sur le boulevard pour le SO pour l'instant?
Oui, mais l'admiration, voilà, c'est le travail paye, il y a un club qui est stable, qui est bien installé, qui a un staff aussi, peut-être les experts de la Pro D2 en parleront. Après, moi j'ai un bémol sur c'est Oyo comme Perpignan, comme Agen dans une moindre mesure, c'est ce que j'appelle moi les entre-deux. C'est-à-dire que c'est des équipes qui sont trop fortes pour la Pro D2 et qui, quand elles, a priori, tout porte à croire qu'Oyonnax va remonter en top 14 et c'est le moindre mal qu'on leur souhaite, elles n'arrivent pas après à franchir ce cap qui est en train un peu d'arriver, par exemple, à faire Bayonne. Et il leur faudrait presque, là, il y a un petit bloc de 4-5 équipes, un championnat d'entre deux, quoi. C'est-à-dire qu'elles... Non, non, mais c'est...
Oui,
c'est
mais j'adore ce
que
tu dis,
si hein. Tu regardes un peu, voilà, elles cassent, Perpignan cassait la figure à tout le monde en Pro D2, a du mal en top 14, et Oyo, c'est pas... Je leur souhaite vraiment, vraiment qu'ils pérennisent, qu'ils montent, qu'ils restent longtemps en top 14, mais voilà, il y a ce petit plus. Après, voilà, c'est une équipe, et puis qui est très, très agréable à voir avoir joué, franchement.
Christian, notre vénérable, les clés de succès pour toi autour de cette belle réussite d'Oyonnax, c'est les hommes peut-être d'abord, avant tout? Et quels hommes? C'est le staff, c'est les joueurs, c'est le presse aussi, comme disait Renaud, grosse stabilité à la tête du directoire. Comment
oui,
tu le vois, toi?
Oui. Ben, c'est un club qui ne fait pas de bruit à l'intersaison, qui recrute avec parcimonie, qui remplace 4-5 joueurs maximum chaque saison, qui sort de bons joueurs son centre de formation, qui s'appuie sur une industrie florissante de la plasturgie, hein, donc qui amène un plus financier qui permet à cette équipe d'avoir du mou, comme on dit. Ils ont des installations dignes du top 14. Hein.
Ouais,
je sais pas si vous avez visité les installations. Moi, j'ai eu la chance d'aller voir un match à Oyo, deux même. Et bon, ça fait rêver, quoi. Ils ont vraiment du matos comme une équipe de top 14. Donc de ce côté-là, ils sont armés pour monter. La question, c'est comment faire pour y rester, parce que c'est une ville de 22 000 habitants. Donc c'est un gros village, hein, Ohio. Et c'est un peu les limites qu'évoque Renaud. Ce sont les limites un petit peu de ce club. La ferveur des supporters est quand même moindre qu'à Bayonne ou ailleurs, ou à Perpignan, pour comparer, puisque on voit le stade de Ohio, malgré les résultats pharaoniques, ils sont 4-5 000 maximum, hein, ils font pas beaucoup recettes. Donc, d'ailleurs, un des anciens présidents l'avait dit, vous vous rendez pas compte où on est, il se plaignait que le public ne suivait pas assez. Et c'est voilà, pour moi, c'est un peu les limites de cette machine de guerre qui est la meilleure équipe de Pro D2 cette saison, ça c'est clair.
Ouais, Christian, moi j'ai regardé, alors l'autre Christian, j'ai regardé un petit peu le staff d'Oyonnax, pardon. Si on prend le staff direct, hein, les hommes qui sont vraiment aux commandes, j'ai commandé quand même un staff élargi, on a 14 personnes hein, autour de Joel Abd, on a deux bâtis quand même co-entraîneur, un autre qui s'appelle Fabien Cibré, c'est des gens qui ont quand même une grosse, grosse expérience. Et puis, ajoute tout ça, tu rajoutes 4 prépas physiques, 3 analystes, hein, 6, avec des spécialisations chacun sur son secteur de jeu, et en plus de ça, 4 kinés ou ostéos, etc. C'est ça aussi peut-être une des explications du succès.
Oui, Christian et Renaud l'ont parfaitement résumé. On a affaire à un club qui a aussi une histoire avec le top 14. Donc c'est, ouais, c'est un club qui connaît les exigences du top 14, qui s'est donné les moyens d'essayer de vite remonter. Donc il y a un staff élargi. Ce qui est impressionnant dans les chiffres que tu donnes et dans les, que ce soit pour les hommes, pour le staff ou même pour le nombre d'essais, c'est quand tu compares avec ce qu'on connaît nous ici à Carcassonne, où on est tellement loin de tout ça, et on comprend la difficulté, et on comprend peut-être aussi le côté machine de guerre. C'est extrêmement plaisant avoir joué au Yo. C'est même un rugby. On se demande si et ça a été évoqué très justement par Renaud, qu'est-ce qu'ils pourraient faire de ce rugby quand ils vont monter en top 14. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que tout est réuni pour faire une très grosse saison, et malheureusement on a déjà un point d'interrogation, c'est à quoi bon, quoi. Et c'est ça qui est un petit peu problématique, et je reprends, tu souriais sur la proposition de Renaud là, de cet entre-deux, mais c'est vraiment un vrai problème. C'est quand on voit que nos amis anglais réduisent encore la voilure sur la première ligue à 12 clubs, peut-être encore moins, peut-être qu'il y aurait une réflexion à avoir pour ces clubs de l'entre-deux, parce que malheureusement on va voir Perpignan, ça va être encore compliqué. Bon, cette année c'est peut-être plutôt Brive. Bayonne, c'est quand même une exception culturelle dans le paysage rugbystique français, Bayonne. Donc voilà, il y aurait une réflexion sans doute à avoir pour faire en sorte que ces clubs qui écrasent la Pro D2 soient pas écrasés par le top 14, parce qu'au finalement, on sait pas tellement où on va les mettre.
Ouais, Renaud, il y a une petite question. Moi, j'ai pointé quand même peut-être une petite faiblesse dans la cuirasse ou qui pourrait nuire l'année prochaine. Je regarde meilleur marqueur d'essai à Oyonnax, et c'est pas les lignes arrière, c'est pas les trois quarts, mais c'est un pilier de très grande qualité, un droitier qui va d'ailleurs finir au Racing la saison prochaine, c'est le jeune Laclaya. Donc est-ce que c'est pas ça peut-être, sûrement, si on en parlait avec Joël Abd, il nous dirait que oui, un domaine à travailler, c'est-à-dire élargir la palette du jeu d'Oyo, où ils sont vraiment armés pour jouer ce jeu-là.
Ouais, enfin, élargir la palette, 389 points de série, je veux dire, je m'en étouffe, pardon. Mais à plus de 30 points inscrits par match, il va te dire, le père Lab, oui, on va l'élargir la palette. Ouais, on va l'élargir.
T'inquiète. Parce que je te laisse reprendre, non, mais sur les 4 essais, la Claya en met un, mais les 3 autres, il y a aussi des jeux d'arrière. Donc, c'est ça que tu allais dire, Renaud, je pense, si tu es avec nous.
Oui, mais il n'est plus avec nous, là.
C'est ça, il y a quand même. Non, beaucoup ça y est,
je suis revenu, pardon, merci.
Ouais. Et ces essais, il n'y a pas que les avant, il n'y a pas que la Claya. Il se trouve qu'il est souvent la conclusion, mais il y a aussi des essais derrière. Donc, la palette, elle est large, c'est ça, Renaud.
C'est du rugby total. Voilà, c'est le rugby total, ouais, de la Plastic Valley, on va dire.
Christian, pour finir, 30 secondes, pour toi, est-ce que le championnat est d'ores et déjà plié, en tout cas pour ce qui est de la première place? Attention, hein, on rappelle, en Pro D2, le premier ne monte plus, il y a des phases finales ensuite.
Mmh. Voilà, bon, pour ce qui est de la première place, ça va être compliqué quand même d'aller les chercher. Bon, je vois que Agen ou Grenoble, peut-être qu'ils peuvent se hisser à leur niveau, mais ils ont quand même, il y a pas mal de retard à l'allumage, moi j'y crois pas trop. Par contre, après, ça va se passer sur les phases finales. Au printemps, les Agenais, avec leur ligne de trois quarts de feu, peuvent peut-être créer la surprise. Hein. Même les Grenoblois, qui ont un jeu extrêmement fluide, peut-être même plus, moins dans la dépossession que Oyo, qui laisse beaucoup le ballon aux autres et qui les contre un peu à l'instar de l'équipe de France. Hein. Donc, on va voir au printemps si ce rugby marche. Cet hiver,
Nathalie,
il marche.
Nathalie va me faire un petit signe pour me dire si on a le temps ou pas de faire juste un petit top et flop en 30 secondes sur cette 12e journée. J'attends le petit signe. Elle me fait un tout petit signe. Donc, est-ce qu'on a encore une petite minute? Oui, me dit-elle généreusement. Non. Sinon, on va se saluer. Voilà, c'est un peu trop juste parce qu'on a été très bavard en début d'émission, mais ça n'est pas grave. Une fois de plus, on a pris beaucoup de plaisir à être avec vous en votre compagnie sur RCF. On souhaite bon appétit à nos auditrices et à nos auditeurs. Et nous, on se donne rendez-vous, attention, semaine prochaine parce que bah, c'est début décembre. Donc, on sera de nouveau au rendez-vous. Écoutez les garçons, encore une fois, merci beaucoup et à très vite sur RCF.